Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, à Passage à Niveau, ce dimanche 1er mars, et on sera en votre compagnie jusqu'à 14h. Deux thèmes, uniquement Hola Paris, Festival Cinéma Portugais du 6 au 8 mars au Cinéma Club de l'Étoile, 4 rue Troyon, Paris 17e, c'est à deux pas de l'Arc de Triomphe. Et la deuxième heure, ce sera les élections municipales en France, deux candidats, Philippe Keita Gassama de Champigny-sur-Marne et Didier Gonzalez de Villeneuve-le-Roi. Mais avant tout, eh ben, on y va. Comme je disais, Festival de cinéma portugais, et comme on a l'habitude de dire, moteur.
E agora, o que é que queres fazer?
Se inventa o amor, eu invento a solidão.
La Paris 2026, deuxième édition. La première, ça a été en mois de novembre 2024. Ça fait un an et poussière. Et avec nous, dans les studios, Wilson Leder et Fernando Leder Marques, directeur et programmateur du festival. Avant tout, bonjour et merci d'être là avec nous.
Bonjour, et bonjour. C'est un plaisir.
Alors, et tout à l'heure, par téléphone, on va voir le réalisateur Jean Roses, qui va présenter en avant-première en France son film Vida Lumineuse, La Vie Lumineuse, et qui fera d'ailleurs l'ouverture du festival. Bon, les amis, alors avant tout, il y a quelques mots, les objectifs de ce festival. Bon, il est très ambitieux.
Bah, les objectifs sont multiples. D'abord, il y a l'envie de présenter une vitrine en France du cinéma portugais. Ça, c'est la première chose, de permettre au public, aux lusodescendants, mais également au public français, de découvrir des films qu'ils connaissent sans doute pas, des réalisateurs et des acteurs qu'ils ne connaissent pas ou peu. Et l'autre envie qu'on a, c'est de créer aussi avec Hola Paris un lieu de rencontre entre les acteurs du cinéma portugais et le secteur du cinéma français, puisqu'il y a déjà beaucoup de coproduction, et voilà, en quelque sorte c'est un objectif qui est culturel, mais pas que, qui est également commercial, stratégique, et c'est ça qu'on entend faire avec Hola Paris. C'est une plateforme vraiment de rencontre du cinéma portugais en France.
Voilà, on va parler de rencontre, on va dire dès le démarrage du festival, il va y avoir une rencontre avec un producteur de cinéma français, on en parlera ça tout à l'heure. Alors, trois jours, sept longs métrages, 5 à 20 premières et 2 films en sélection, un focus 11 courts métrages d'animation, masterclass Régine Pessoa, la séance extravagante, ça je l'adore celle-là, et rencontre débat. Et justement, il y a plein de choses, il y a la nuit, histoire tragique avec fin heureuse, Cali, le petit vampire, oncle Thomas, la comptabilité des jours, et là, je pense qu'on est en train de parler des films d'animation. Alors, La Marraine. La Marraine était déjà venue, la première édition, Beatrice Batard, bon, je pense que c'est pas la peine de la présenter, bien que, oui. Oui, ça.
C'est vrai qu'on la présente plus, Beatrice Batard. Mais on est vraiment très très content, très fier de l'avoir comme marraine cette année. Elle était là comme tu as dit à la première édition. Elle a beaucoup aimé le festival, l'ambiance et tout. Et c'est vrai que quand on lui a demandé d'être la marraine assez tôt après la fin de la première édition, d'ailleurs, on lui a demandé, elle a accepté avec grand plaisir tout de suite. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle est marraine d'un festival de cinéma. Elle nous l'a dit. Hein.
Jusqu'à maintenant, elle avait été marraine d'une librairie.
Oui, et puis de certains événements comme ça ponctuels, mais elle avait jamais été marraine d'un festival de cinéma, donc elle est très contente pour ça, puis nous encore plus quoi. Hein. Et elle est vraiment, et depuis donc on échange beaucoup, et on s'est rendu compte qu'elle était vraiment très très impliquée dans l'histoire. Elle pose plein de questions, il y a deux films de la sélection dans lesquels elle joue, donc elle sera là pour en parler. Elle sera là également pour le dernier débat après Prazer Camarades. Enfin, vraiment, c'est une marraine très impliquée et très agréable en plus. C'est une super personne, Béatrice Chabatard.
Oui, d'ailleurs, elle va animer un débat, bon, un débat ou une rencontre avec Jeanne Walls. Jeanne Walls, c'est la réalisatrice du film Où vient à ce bien d'Ajgrouse, le vent qui siffle dans les grues. Mais, parlons encore de Béatrice Chabatard. Elle a un regard par rapport au cinéma. C'est un regard, je dis pas à part, mais c'est quelqu'un qui est conscient de ce nombre de choses. Et pour elle, le cinéma, ça doit dire quelque chose. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort.
Non, mais c'est ça. Elle a une, comment dire, un positionnement qui est, je pense, aussi politique. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que le cinéma, comme la culture, ce sont des objets, on va dire, politiques. Hein. On exprime des choses, des contradictions, des revendications. Quand Charlie Chaplin fait dictateur... C'est avant même que les Américains s'engagent dans la guerre. Donc le cinéma, est, comme le reste de la culture, a des choses à dire. Et Béatrice, je pense qu'elle est très consciente de ça. Et elle a un positionnement qui comment dire, elle regarde de façon globale un peu ce qu'est le monde du cinéma. Mmh. Pas de façon, elle fait pas de la macro, ou de la micro, pardon, elle fait plutôt de la macro. Et c'est vraiment agréable de parler avec elle. Elle a comment dire une façon de voir les choses qui est vraiment magnifique et à chaque fois qu'on discute avec elle, on a eu l'occasion de la voir à Lisbonne, enfin à Keshkaj, là il y a quelques mois, on a passé 2 heures avec elle et c'est toujours un plaisir.
Alors, il va y avoir des échanges entre des professionnels du cinéma et le public. D'ailleurs, avec la semaine dernière, Wilson, on avait abordé le sujet. Et il y aura une conversation entre le réalisateur du film Vie lumineuse, Jean Rosach, et le producteur français François Dartemare. Donc, ça, c'est un parti pris. Je pense que ça, c'est très important parce que vous voulez justement donner cette ouverture du cinéma portugais en France.
Oui, tout à fait. On veut aussi, en plus de nos invités portugais, donc qui viennent à Paris, on veut créer un lien avec la filière française. Quand je dis filière, ça peut être des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, enfin les protagonistes du cinéma français. Donc le but aussi, c'est de créer du lien entre ces deux mondes, français et portugais. Et là, effectivement, pour A Vida Luminosa, le film qui fera l'ouverture, donc il y aura François Dartemare, qui est le producteur français du film. Hein. Donc il sera là pour discuter ensuite, donc forcément on va aborder aussi des sujets sur qu'est-ce qu'un, enfin un distributeur français qui vient faire exploiter un film portugais en France, et j'ajouterai aussi qu'à cette conversation il y a Cécile Matignon, donc qui est l'actrice du film, qui sera présente aussi en plus du réalisateur et de François Dartemare.
Et à propos du réalisateur, Jean Rosach, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, mais pour démarrer, vous parlez de votre film, vaut mieux peut-être écouter aussi le trailer, comme se dit en portugais, mais il paraît. Bon, enfin, la bande-annonce pour nous.
Bonsoir, está na cama.
Olá, Nicolau. Muitos parabéns.
Epa, que dramático, Nicolau. É lá que vou contigo há quase 1 ano.
Mas há 1 ano. Acabamos há menos. Eu ainda estivemos juntos 2 anos e 10 meses. Isso não se esquece assim, Mariana.
Você inventa o amor, eu invento a solidão.
Se calhar já estava na altura de trocar, né? Assim, escusava de andar com essa bicicleta de garoto.
Não consigo. Tem valor sentimental.
Bom, não fiques assim. A tristeza é uma questão de hábito.
O que é que sabes sobre a minha vida? Nem sequer perguntas? Terras cá de vez em quando para mandar umas piadas?
Olha, meu menino, chama-se isso ter um emprego.
Andas aí a arrastar-te pelas paredes com uma alma penada, até faz impressão.
Estes são os melhores anos da tua vida. É para aproveitar.
Motivação, flexibilidade, dinamismo.
Bem, eu sou dinâmico.
Poder escolher outro modo de vida é partilhado entre vários lugares.
Tu, se fazes o favor, não vais na conversa destes dois, ou ainda ficas como eles.
Eu ando há 1 ano a ressacar da minha ex-namorada.
Sim. Se não és comentar, isso é tocar mal. E tu, Nicolau?
Hoje não estou com a cabeça no sítio.
La bonne annonce de Vida Luminosa, La Vie Lumineuse. Alors, Jean Rosach, on peut parler de cette aventure, l'aventure de ce film?
Je dirais que c'est une sorte de comédie mélancolique existentielle sur apprendre à vivre en soi les aventures du protagoniste Nicolau, qui a 24 ans et qui commence à travailler. Il loue une chambre en colocation et tout ça. Donc, il commence un peu à apprendre à vivre sa propre vie. Et je dirais que c'est surtout sur l'importance de l'amitié et de l'amour dans la vie de chacun de nous, dans ce cas de Nicolao.
Wilson.
Bonjour, Joao.
Bonjour.
Moi, on a trouvé effectivement que ce film, comme le disait Juin, ouais, il était il racontait la jeunesse d'aujourd'hui à Lisbonne. Et c'est vrai que ce qui nous a beaucoup plu dans ce film, c'est toutes les questions en fait qui concernent la jeunesse qui sont posées dans ce film, sans forcément avoir des réponses d'ailleurs. Mais c'est vraiment la façon dont ils se posent toutes ces questions sur leur futur, notamment sur leur avenir. Et puis il y a aussi une façon de filmer Lisbonne qu'on retrouve pas dans tous les films ou qui se passe à Lisbonne. C'est vraiment un personnage du film. Et ça, Juan vous l'a déjà dit par ailleurs dans ses interviews. Et c'est vrai qu'on sent la ville très présente dans ce film toujours.
Et à propos de la ville justement de Lisbonne, Juan, bon, je suis né à Lisbonne, mais Lisbonne d'aujourd'hui, ça a rien à voir. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, votre génération, en quelque sorte, c'est-à-dire, elle a un lien avec Lisbonne différent du mien, très, très, très différent du mien. Et donc, mais vous, comme cinéaste, c'est l'avantage aussi des images qui restent et qui montrent des trucs que d'habitude, ça nous passe complètement à côté. Et justement, alors, votre regard sur la ville, parce que, est-ce que la ville tient compte de la jeunesse aujourd'hui ou est-ce que la jeunesse essaie de refaire la vie à sa façon? Donc, dans le film, ça apparaît.
Oui, bon, bien sûr, je crois que la jeunesse, bon, et chacun de nous, en fait, c'est nous qui faisons la vie, la ville, dans nos quotidiens, non? Et donc, le point de départ du film, en fait, c'était un peu cette doute ou mon intérêt sur la façon dont la jeunesse vivait dans la ville aujourd'hui, qui c'est une ville aussi très différente quand j'étais jeune, il y a 20 ans. Donc, le point de départ, c'était vraiment de découvrir la ville avec ces gens que j'ai connus pendant le casting. Et en fait, la ville, c'est l'inspiration principale pour commencer à réécrire le film avec eux. Quand je fais des marches en ville, et donc je fais des balades avec eux tout seul pour découvrir ces coins dans la ville un peu qui ne sont pas dans l'image officielle, disons comme ça, de la ville, et donc la ville cachée où les gens habitent vraiment. Dans ce cas, les jeunes. C'est pour ça que je crois que après, c'est très naturel que la ville devienne une sorte de personnage parce qu'elle est vraiment très importante dans tout dès le départ pour faire le film. Elle nous donne l'inspiration. Et après, le cinéma, c'est une façon, oui, de découverte de la ville avec les gens que j'invite à faire le film avec moi, qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont des gens qui m'intéressent et un peu une sorte de devenir ami avec eux dans pendant qu'on fait le film.
Donc, c'est en quelque sorte, c'est aussi le regard de cette jeunesse-là, parce que c'est pas des acteurs professionnels, sur la ville et sur la vie tout court. Je ne sais pas si Wilson ou Fernando veulent rajouter quelque chose.
Non, juste peut-être dire que ce film, on l'a découvert en fait à Lisbonne quand on s'est déplacé avec Wilson.
Oui, parce que c'est au festival Indie Lisbonne.
Voilà, Indie Lisbonne, qui est un festival où le film a été sélectionné et qui est un festival avec lequel on est en collaboration. Donc on présente le film dans la Paris dans le cadre de notre partenariat avec Indie Lisbonne. Donc voilà, c'est le film qu'on a nous choisi pour présenter cette année à la Paris.
Donc, je vous remercie. Donc, en plus, bon, c'est votre film qui va faire l'ouverture du festival. Il va y avoir un débat avec le producteur du film, François Dartemar. C'est important ce lien avec le producteur, d'autant plus, bon, le cinéma portugais en France, beaucoup de choses restent à découvrir. C'est important pour vous, cette rencontre.
Pour moi?
Oui, pour vous. Oui.
Je croyais que vous parliez avec François. Non. Oui, bien sûr. C'est très important. Bon, déjà pour que Les films sont faits pour qu'ils soient vus, et donc c'est vraiment un plaisir de le présenter à Paris. Et c'est aussi une façon de montrer du cinéma portugais en France, et même en termes de production, bien sûr, c'est important d'avoir le soutien dans ce cas de CNC, une production française qui nous permet de filmer avec d'autres conditions aussi, bien sûr. Comme c'est une coproduction, donc pour moi comme cinéaste aussi, c'est très important, bien sûr.
Jean-Rose, merci. Donc on se donne rendez-vous vendredi prochain, le 6 mars, et à la projection en avant-première de Vie lumineuse, ça va démarrer à 17h20. Merci
merci à vous.
À vendredi prochain. Merci.
Merci. À vendredi. Salut.
Alors, justement, alors, et en résumé, il y a plusieurs sélections dans ce festival. Si on peut énumérer peut-être les rapidement.
Il y a 7 films en tout, et il y a 5 avant-premières. Donc, et puis les deux autres films qui ne sont pas les avant-premières, c'est Rive de Sergio Trefaut et Prazer Camaradas de José-Philippe Costa, qui sont deux films quand même assez importants dans l'histoire du cinéma portugais, et qui ne sont pas si vieux que ça, ils sont récents. Je crois qu'il y en a un de 2019 et l'autre de 2022, donc c'est quand même pas des vieux films. Mais c'est vraiment l'événement cette année, c'est qu'on a 5 films qui sont... Voilà, qui sont des avant-premières. Donc ça, c'est quand même la grande nouveauté, ne serait-ce que par rapport à notre première édition où on en avait un seul.
Oui, ça, il y a des nouveautés. Alors, une référence, et c'est très important, « O vento assobiando nas ruas ». Le vent qui siffle dans les rues de Jeanne Walt. Après, la projection du film va avoir un échange avec Beatriz Batarda. C'est une actrice du film. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de films portugais qui sont adaptés de œuvres de romans. Celui-là, c'est un roman de Lydia Jorge. Donc, c'est important parce que finalement, on se rend compte que le cinéma, la littérature, ça fait un tout.
Ben, c'est la culture en général, et c'est vrai qu'on se... Comment dire, on a deux types, deux types de films. Un film d'auteur où effectivement on parle de quelque chose qui nous est personnel, et des films qui sont des reprises de romans, qui souvent sont aussi très intéressants. Surtout l'intérêt, c'est que ça permet une ouverture très large, une grande diversité de choix. Et d'ailleurs la sélection cette année du festival, elle est très large en termes de genre de films. On a des films qui sont plutôt des tragédies. On a également des comédies dramatiques. On a un film un peu dans la science extravagante qui est un petit peu, je dirais, qui fait un pas de côté par rapport au cinéma en général. Mais ça permet d'avoir vraiment une présentation très large et des choses très différentes. L'an dernier, on avait plutôt l'idée de l'an dernier, c'était de montrer un peu à des gens qui connaissaient pas qu'est-ce que c'était que le cinéma portugais. Donc avec des films qui étaient peut-être parfois plus anciens, etc. On avait une seule avant-première. Cette année, c'est différent. C'est vraiment le cinéma contemporain qu'on veut présenter, les nouveaux réalisateurs, réalisatrices, les nouveaux acteurs, actrices, et du coup la diversité présentée en termes de films est beaucoup plus large que l'an dernier.
Alors, Rive, tout à l'heure, il y a un de vous deux qui a dit que c'était un film très important, il date de 2018. Alors là, on va se replonger dans Portugal, 1950, ni plus ni moins, mais on va écouter la bande-annonce.
Ouvi dizer que o malandro do Palme arranjou uma nova maneira de ganhar dinheiro.
Estas coisas têm perigos. Às vezes a guarda...
Sei disso tudo e vou para o contrabando, mira. Sempre ganho meu palmas de sol, cabeça erguida.
Ela vai à vila ter com os homens. Andam para aí a fazer reuniões.
Eu vou pelo pai e pelos outros.
Também não sabes que os camponeses andam a tramar alguma coisa.
Guardei segredo sobre isto.
Tu falas demais, Palma. A única coisa que tu tens a fazer é engolir e calar.
Mas afinal, o que é que vocês querem?
Olha à sua volta, avó. Será preciso explicar?
Nas terras mortas não há pão. Os pobres nascem pobres. Os ricos nascem ricos. Os pobres morrem pobres. Os ricos morrem ricos.
Live de Sergio Tréfaux, et là, comme je disais tout à l'heure, on se replonge, 1950, le Portugal, Alentejo, c'est un film, je ne sais pas, c'est un film qui est assez lourd, mais dans le bon sens du terme, dans la mesure où c'est un portrait de la société à l'époque. Parce qu'il y avait les grands latifondières, il y avait des ouvriers agricoles qui étaient payés quelques mois par an, qui habitaient dans des conditions, vivaient des conditions incroyables. Et ce film-là, c'est un petit peu le portrait de ce qu'était l'Alentejo à l'époque.
Oui, c'est le portrait de ce qu'était l'Alentejo à l'époque où, il faut le rappeler, c'était la pleine dictature dans le pays. Et c'est vrai que les ouvriers agricoles, et notamment dans l'Alentejo, bah, ils mouraient de faim quasiment. Ils étaient pauvres, ils avaient rien, ils mangeaient pas. On les laissait pour compte, quoi. Ils étaient vraiment perdus. Et ce film raconte en fait en deux mots. Je veux pas dévoiler, mais c'est une sorte de thriller huis clos qui raconte un peu la révolte d'un de ces personnages contre la dictature, quoi. Donc ça montre des choses effectivement dures, injustes. Et tout ça, mais c'est vraiment Sergio Tréfaux a choisi un noir et blanc pour faire ce film, un magnifique noir et blanc qui rajoute encore plus au côté tendu et de l'époque même du film. Et c'est vraiment un film, oui, qui est vraiment très réussi, très intéressant. Et Sergio Tréfaux sera là d'ailleurs pour en parler avec Hugo Bench, l'acteur principal du film, oui, qui est lui-même issu de l'Alentejo d'ailleurs. Oui. Il n'est pas là par hasard. Oui.
C'est pas pour rien que Sergio Tréfaux a fait ce film, parce qu'il est il est brésilien, des portugais brésiliens. Et je ne sais pas, bon, j'extrapole un petit peu, mais ça me fait rappeler la situation justement des ouvriers agricoles orientés au Sainte-Terre, au Brésil, etc. Là, je ne sais pas, bon, lui qui a des origines brésiliennes, bon, je ne sais pas que ça fait un genre de truc de va-et-vient entre les deux côtés de l'Atlantique.
Oui, je pense qu'il y a effectivement une façon de traiter le film qui se déroule au Portugal, donc en Alentejo, et qui sans doute par certains côtés doit vraiment ressembler à la situation qu'ont vécu également les ouvriers agricoles au Brésil, qui vivent peut-être encore aujourd'hui, parce que je pense que là tout n'est pas réglé à ce niveau-là.
Alors ces films-là, si j'arrive à trouver mes papiers, ça y est, donc il va être projeté le samedi 7 mars à 20h55, une avant-première, bien, et va être présent comme ça a été dit. Alors on avance un petit peu parce que, mine de rien, le 8 mars, c'est la journée de clôture du festival, mais c'est également la journée internationale des droits des femmes. Et là, je pense que vous avez voulu marquer cette date-là. Et ça, bon, il y a deux films. Il y a Entroncamento et Prazer Camaradas, je vous vois y revenir. Mais il y a une sélection extravagante. Alors, c'est extravagant, ça vaut la peine d'expliquer, de rentrer un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qu'il y a d'extravagant et extravagant dans les films?
Extravagant, c'est pour nous, c'est plus l'idée de faire une sélection, enfin de présenter des films qui sont un petit peu qu'on pourrait présenter en dehors du festival. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils sont pas liés aux thématiques du festival, mais ils nous paraissent. Je parlais tout à l'heure de faire un pas de côté, et là c'est le grand écart, parce qu'on a vraiment un film qui retrace la révolution au Portugal. Mais c'est vu à travers autre chose. C'est-à-dire, on n'est pas directement dans la révolution elle-même. On est dans une révolution dans la révolution, parce qu'en fait, il s'agit de un an après la révolution. Beaucoup de jeunes Européens sont venus au Portugal, un peu comme on faisait à l'époque les chantiers de travail en Israël, où les gens arrivaient de partout pour aider les Israéliens.
Fernand, si tu permets, bon, on va changer un petit peu, parce que j'avais prévu qu'on passe la bande annonce Entroncamento, mais on va passer justement par Zer Camarades pour savoir avec un couple qui vient d'une Nord de l'Europe. Bon, et là, il y a question sexuelle là-dedans, etc. Et là, c'est le choc entre deux, je dis pas deux civilisations, mais presque. Alors, plaisir, camarade, s'il vous plaît.
I'm from England, London. 18 years old and here to see the revolution. I didn't know you could have revolutions in Europe. I thought they only happened in South America, you know what I mean? But it's happening here and now.
Felices, Angel. Regresso agora a Portugal e regresso para o campo. Regresso para uma cooperativa das tesouras. Revolucionário,
revolucionário. Isto, a minha cozinha, é só mulheres. Como? Porque assim é homem, é macho.
Aqui não é nenhuma pousada. Elas não podem ficar na cooperativa. O que é que elas ficam cá a fazer se não vão trabalhar?
Elas a mim não prejudicam nada.
Para de escândalo. Oh, filha, eles já têm mais que aberta.
Quem vota contra e quem vota a favor?
Alors, ce n'est pas pour rien. On revient à Orientège, finalement. Bon, ça sort pas, hein?
Bah non, c'est vrai que... C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de trucs là-bas quand même, pendant la Révolution et après la Révolution. Et donc effectivement, cette journée de internationale des droits des femmes, le 8 mars, correspond avec le dernier jour de notre programmation, notre festival. Et c'est vrai qu'on voulait... On voulait marquer le coup là-dessus. Et les deux films qui sont projetés, donc Entrancament et celui-ci, Plaza Camarada, sont deux films où les femmes sont au centre du débat, hein, puisque Entrancament, les deux actrices principales sont des femmes qui luttent dans cette ville, comme son nom l'indique dans le titre, Entrancament, qui est quand même un peu ravagé par la drogue, la violence et ce genre de trucs. Et elle lutte contre ça qui est dominé par les hommes. Donc elles sont les deux filles. Et d'ailleurs, je précise que Ana Vilas et Cléo Diarra, les deux actrices en question, seront présentes aussi avec le réalisateur pour parler du film après.
Oui, mais ça sera bon au début d'après-midi. Mais revenons un petit peu à Plaza Camarada. Donc la projection, c'est à 18h15. Ça va être suivi. Alors, un débat sur la condition féminine, justement avec la marraine du festival, Beatrice Bettard et Elena Nogara.
Oui, donc ça c'est et José-Philippe Costa, le réalisateur, qui sera là aussi. Donc effectivement, donc après ce débat, on va dire que c'est le débat, bon, c'est la séquence extravagante. Et c'est de par le film. Et ensuite, on va se dire que c'est le débat qui sera un peu différent des autres, dans le sens où il va être un petit peu orienté sur un thème dont José-Philippe Costa dans le film parle beaucoup. C'est les femmes par rapport à cette après-révolution, c'est-à-dire qu'elles retrouvent tout simplement leur liberté, parce qu'elles étaient complètement sous la domination des hommes. Elles étaient il y avait le patriarcat qui était là, et puis comme vous l'avez dit vous-même, il y avait aussi pour les histoires de rapports de couple et tout ce que ça entraîne. Enfin, vraiment, il y a un côté très inspiré sur la condition des femmes, et le débat il sera donc un petit peu orienté là-dessus. Donc on aura Béatrice Batal, qui est notre marraine, qui va venir discuter de ce sujet après le film. Et puis on a invité également Elena Nogara, que certainement beaucoup de gens connaissent.
Ouais, ben vous êtes assis là où elle a été assise.
Voilà. Qui est une femme assez impliquée aussi quant aux histoires de droits des femmes. Donc elle sera là aussi pour parler de tout ça avec Béatrice Batal, le réalisateur.
Alors ces films là, bon, Plaisir Camarade, je sais bien qu'un tronc de merde, c'est des films d'aujourd'hui. C'est-à-dire il parle de problèmes concrets. Il y a la politique là-dedans, mais politique dans le bon sens du terme. Parce qu'avec Entrancament, on va écouter dans quelques secondes justement la bande-annonce. Là, bon, et on a parlé de la présence de deux actrices principales, Ana Vilas et Cléo Diarra, qui a été primée à Cannes récemment.
Exactement, et qui était à Berlin dans les 10 acteurs européens montant, et donc tous les ans à Berlin ils font
révélation.
Voilà, ils font une sélection de 10 acteurs européens, et elle était dans les 10 acteurs, donc c'est vraiment une actrice actuellement qui est intéressante au Portugal.
Alors entrons quand même justement là où on a parlé de la problématique de la jeunesse, on a parlé tout à la question de drogue et de la drogue, etc. Et parfois on cherche une fouillante, et apparemment Laura, c'est pas ça qu'elle a trouvé, mais enfin la bande annonce, intro camionette.
Fala bem, mano, estavas aí só com um gajo não conseguiu atender, fala.
Fecha, mano.
Mano, tem aqui algo, mas não tem tudo, mano. Olha, está aqui.
Não tem que
é o que atender. Só se coisa, mas o que é isso?
As coisas mudaram.
As coisas mudaram como assim?
Falta 200.
Onde é que está?
Onde é que estou o quê?
Eu te liguei bastante.
Olá, é surdo.
Estou a falar contigo, dessa só para estar calado.
Agora com ela, mano, agora com ela.
Como assim? Só falo contigo, mano, já sabes que eu nem conheço essa senhora lá de nenhum. Estás a falar...
Está calada. Estás a ouvir agora?
Estou a ouvir um sussurro. Calma, respira, moça. Vem cá, mal. Mas que é isso, mano?
Agora
com ela, o que mais avisaste do quê, mano? Então, mas tu nem atendeste o chamado, já estás a dizer que avisaste.
Está calado, pá.
Calma aí.
Tens alguma cena em casa?
Sabes que eu vou-te dando, mas conforme eu tenho, que é essa merda?
Não é vais dando. É vais buscar 200 euros, estás a ver dinheiro. Placa 250, 10 de 50, faz as contas.
Olha, faltam dinheiro 200. É eu, não devo dinheiro a ti, que eu não
deves
me penso lá.
Deves dinheiro a mim, deves.
Não, mas que é isso, mano? Diz Ana para tirar a faca do pescoço, mano, que é isso? Que é isso, mano?
Olha para mim.
Eu não conheço lá. Elvis, que é isso, mano?
Faltam 200 euros, vai buscar a casa.
Não tenho, vais ter de esperar como ele espera. Não funciona, se ele já sabe.
Ah, eu estou-me a cagar para como é que tu funcionas.
Vais ter de esperar. Vais ter de esperar, filha.
Desenmerda-te.
Vais ter de esperar.
E agora, mano?
Esperas, mano, já sabes, conforme tenho, eu vou-te dar. Diz lá para tirar a faca do pescoço, mano, que é isso?
Cala a boca, meu.
Cala a boca, o quê? Então, mas que é isso? Estás na minha terra, estás a
fazer. Mas calma o dinheiro, meu.
Não tenho todo o dinheiro, vais ter de esperar.
Estou-me a cagar.
De esperar.
Tem merda, tu meu.
Espera.
Oui, on a entendu le sifflement du train et un troncamento. Là, c'est vraiment un portrait. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Portugal et pas seulement, même à d'autres ici, on peut trouver exactement.
C'est un film de banlieue, hein. Ça pourrait être un film français ou belge ou autre.
Ah ben, j'habite en banlieue et je l'assume, hein. Je suis bien content d'habiter en banlieue. Alors, le temps il avance. Entre temps, parce qu'il faut parler aussi des courts-métrages. On va avoir une masterclass avec Régine Apso, je crois.
C'est ça, Régine Apso, qui est une grande dame de l'animation. C'est une réalisatrice très connue au Portugal, mais également au niveau international, qui a gagné de multiples prix. Et elle nous fait le plaisir de venir présenter, lors d'une masterclass, un peu sa façon de travailler. Elle présente quatre courts-métrages, et après, donc à chaque fois, elle explique un peu comment elle conçoit, comment elle réalise, etc. Et ensuite, il y a une conversation avec le public, et le public va être en partie... il va être représenté en partie par des étudiants en école d'animation, au cinéma d'animation française.
Alors, pour continuer là-dessus, en plus de donc cette masterclass, ça va être un peu le point événement sur ce thème de l'animation, parce que cette année, on s'est dit qu'on allait présenter le cinéma d'animation portugais, qui est vraiment de très grande qualité, reconnue dans le monde par plein de films qui ces dernières années ont fait le tour des festivals, et on va passer donc un court métrage. Donc cette masterclass, c'est le point d'orgue un peu de tout ça, avec Régine Apso, qui est une des plus grandes réalisatrices d'animation portugaise. Mais il y aura, avant chaque long métrage, donc avant les 7 autres séances, il y aura un court métrage d'animation à chaque fois qui sera projeté, et parmi les plus primés, donc je pense à Ice Mercant, Apple Sepp, que dernièrement, ou un plus vieux encore de Abby Feijor, qui donc voilà, à chaque fois il y aura un court métrage d'animation qui sera proposé au public et qui est un court métrage d'animation marquant.
Ah oui, c'est extraordinaire. Je me rappelle d'Ice Mercant. J'arrive jamais à prononcer ce truc-là parce que le réalisateur, on l'a eu, il habite en Angleterre. Et on l'a eu par téléphone, il nous a envoyé le film. C'est extraordinaire, ce vol, entre guillemets, du père et le fils. Bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un monde merveilleux, etc.
Très, très poétique. Oui.
Alors, mais le festival, c'est du 6 au 8, mais il y a quelque chose le jeudi 5 mars au Conseil général du Portugal.
Ah oui?
Ah bon? Oui, pareil, oui, c'est la présentation du festival, les enfants.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, c'est bon, vous avez... Bon, je sais pas, j'ai dit ça.
Alors, on fait une soirée d'ouverture, effectivement, au consulat du Portugal, dans les salons le consulat. Ah. Et d'ailleurs, on est très heureux parce que on est, comment dire, on a le soutien vraiment du consulat à travers sa consul, Monica Lesbo, qui et son équipe, qui ont été vraiment d'une grande aide cette année pour permettre au festival de franchir
un palier.
Un palier, effectivement. Mmh. Et donc, voilà, c'est en plus, ils nous accueillent dans les ors de la République portugaise. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir accueillir nos invités, artistes, presse, partenaires, etc., lors de cette soirée d'ouverture.
Alors, ça sera le jeudi 5 mars à 19h au Consulat Général du Portugal. Confirmation, s'il vous plaît, de votre présence jusqu'au 4 mars. Il faut envoyer cette confirmation à une adresse mail mj.lecer.
Non, c'est sur invitation uniquement.
Pardon,
c'est pas un spectacle, c'est une soirée d'ouverture privée pour les partenaires, les artistes, la presse du festival.
J'ai tout faux.
Bon. Disons que le lendemain, le vendredi, avant de démarrer le premier film qui est Avida Luminosa, il y aura une petite soirée d'ouverture vraiment pour le public, là, pour le coup.
D'accord, bon, c'est gentil. Hein,
enfin, quand je dis une soirée d'ouverture, on présentera le festival, la programmation, la marraine, et puis ensuite on attaquera les films.
Alors, parlons en attendant terminer. Hein, le pass, c'est très important parce qu'on peut acheter le pass pour une journée, deux journées ou trois journées.
Bah, c'est pour les amoureux de cinéma, pour les gens qui ont vraiment envie de découvrir le cinéma portugais, c'est l'occasion, à un tarif réduit, de pouvoir assister, quand bon leur semble, à toutes les projections.
Alors, et on fait comment pour acquérir ce pass?
Eh bien, on va sur les réseaux sociaux, on trouve le lien de la billetterie, et puis on peut acheter en ligne tous ces passes, que ce soit le pass 3 jours, le pass journée, ou les billets pour chaque film, tout est en vente. Sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui auraient une panne d'ordinateur, on peut toujours acheter sur place au cinéma.
Le jour même.
Le jour même.
14 rue Troyon, c'est à deux pas de l'Arc de Triomphe, le métro Charles de Gaulle Étoile, bien entendu. Merci, Wesson Lebel, merci également Fernando Lebel Marx. Bien entendu, pour terminer, on va écouter l'invitation par la marraine du festival, justement, Beatrice Bater, et un petit clin d'œil au cinéma portugais, parce que après, on va écouter la musique du film « Os Verdes Anos » de Paul Roche, 1963, composition et interprétation de Monsieur Carlos Paredes. Merci et bon vent au festival.
Merci.
Olá, bom dia a todos. Je suis Beatrice Batarda et je suis très contente d'annoncer que je serai la deuxième marraine ou la marraine de la deuxième édition du Festival du cinéma portugais qui s'appelle Olá Paris. J'espère que vous serez nombreux à venir découvrir ce cinéma au cinéma Club de l'Étoile à Paris du 6 au 8 mars 2026. Alors cette année, on a une surprise, on a 5 avant-premières, et je pense que ça c'est très extraordinaire, et aussi l'opportunité de connaître, de rencontrer des cinéastes et des actrices et des acteurs portugais. Et j'y serai, moi aussi, pour vous connaître, pour échanger des impressions et des idées au sujet du cinéma en général. À bientôt, merci.
E agora, o que é que queres fazer?
Solidão.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Niveau, passagez niveau, deuxième heure, ce dimanche 1er mars, émission avec rediffusion dans la nuit du mardi au mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Et aujourd'hui, on revient à Champigny-sur-Marne. Cette fois-ci, on a Madame Philippe Keïta Gassomba, de LFI, la France Insoumise, et tête la liste Faire mieux pour Champigny. Madame Gassomba, bonjour et merci d'être là.
Bonne tarde et obrigada de m'accueillir sur Radio Alpha, c'est un plaisir.
Alors, actuellement, vous êtes élu d'opposition, mais de votre premier mandat, vous aviez 24 ans.
Tout à fait, 24 ans, on ne peut rien vous cacher. Je venais juste de terminer mes études. C'était des études d'ailleurs pas du tout dans le secteur de la politique. J'ai fait des études en comptabilité, après j'ai fait un master 1 en sciences de l'éducation. Mon engagement sur la ville fait que les élus viennent me chercher et c'est de là que je deviens adjointe au maire à 24 ans.
Deux fois, je crois.
Tout à fait, deux mandats. Et à l'époque, il y a un journaliste qui m'avait dit que j'étais la plus jeune adjointe au maire de France. J'ai jamais vérifié, mais c'est le journaliste qui m'a dit ça. Et un premier mandat avec Dominique Adnaud.
Le regretté, qui est décédé,
paix à son âme. Oui. Et le premier mandat, je m'occupe des quartiers Bois-l'Abbé et Mordac. Et deuxième mandat, je m'occupe de la jeunesse, la communication et la démocratie participative.
Alors, il faut dire aussi que vous êtes une enfant de Champigny.
Oui, je suis
peut-être
une enfant de Champigny.
On
va commencer par là. Oui, je suis une enfant de Champigny. C'est une ville que j'affectionne particulièrement. J'ai grandi dans le quartier du Bois-l'Abbé, mais j'ai sillonné dans tous les quartiers de la ville en tant que jeune, à travers l'école, les études, à travers les différentes activités, puisque Champigny, c'est une ville avec beaucoup de potentiel, dynamique, à travers le sport, la culture. Et oui, je suis enfant de Champigny.
Ah, d'ailleurs, il y a un certain nombre de champions de France et champions olympiques qui viennent de Champigny. Donc, on parlait tout à l'heure de la jeunesse, le sport, et quelle place on fait à la jeunesse à Champigny-sur-Marne, parce que c'est une ville très jeune. Alors, en 2025, vous avez quitté le PCF, donc vous avez adhéré à la France Insoumise. Rapidement, pourquoi ?
Alors, moi, je suis dans un parti, avant tout, c'est par rapport aux valeurs. Si j'ai adhéré au Parti communiste il y a beaucoup d'années, c'est parce que je trouvais que c'était un parti courageux dans le positionnement politique. Un parti qui ne baisse pas les yeux et qui affrontait différentes questions qui me touchaient, moi, en plein cœur. Et ces dernières années, ce courage politique, je le retrouve plus à la France Insoumise. Et c'est pourquoi j'ai décidé de rejoindre la France Insoumise. Et ça n'est pas incohérent, puisque je rappelle qu'il y avait le Front de Gauche. 2012, j'avais fait la campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Les escaliers, les marchés, les porte-à-porte. 2017, pareil, j'ai fait la campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Et 2022, par contre, je n'ai pas fait la campagne pour Fabien Roussel. Parce que je ne me retrouvais pas du tout dans la ligne.
Alors, la France Insoumise a décidé cette année d'aller tout seul aux élections municipales. Le résultat, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais toujours est-il que la gauche va être divisée. Bon, c'est pas le sujet de notre conversation, parce que sinon vous pourrez passer une bonne demi-heure à parler là-dessus. Ça, c'est une décision politique. Donc, votre liste Faire mieux pour Champigny. Alors, je vous pose une question comme ça, toute simple. Comment faire mieux pour Champigny, sachant le contexte actuel, politique et social, et surtout au point de vue budgétaire, puisque les trois derniers premiers ministres, M. Barnier, M. Bayrou et maintenant M. Le Cornu, ils disent le déficit, c'est à cause des collectivités territoriales, c'est vous qui faites le déficit. Alors, on sait très bien que les dotations de l'État ont été réduites depuis pas mal de temps. Comment gérer une ville, comment avancer pour mettre en œuvre, pour appliquer vos propositions?
Alors, beaucoup de choses.
Bah oui, non, mais en résumé, c'est ça. Il faut avoir de l'argent.
Et effectivement. Alors, je vais reprendre, puisque vous avez dit beaucoup de choses. Alors, je tiens à dire que la France Insoumise n'est pas seule. La France Insoumise, c'est la première force politique de Champigny. Le maire actuel, il a gagné avec 9000 voix. La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, en 2022, au présidentiel, il fait 12 000 voix. Ensuite, aux européennes, c'est pareil. Ça place la France Insoumise à Champigny en tant que première force politique de gauche et même devant la droite. L'union, on parle de l'union. Alors, moi, je tiens à redire, hein, notre opposant politique, c'est Laurent Jeanne, le maire sortant. Nous avons de très bons rapports avec l'ensemble des forces de gauche. Nous nous parlons et nous anticipons même le deuxième tour. Parce que le premier tour, c'est la démocratie. Les habitants, les électeurs vont choisir. Et le deuxième tour, on élimine le maire sortant, quel que soit le scénario, bien évidemment en prenant en compte le programme, parce que c'est voilà. Très important.
Bon, donc, ça sera le 15. Voilà. Le choix des électeurs, c'est le 15.
Très bien. Mais comment faire mieux? Alors, il y a de l'argent. Hein. Champigny, tout est une question de choix budgétaire, de choix politique, de priorité politique, tout simplement. L'État dit que les collectivités territoriales, c'est eux qui creusent le déficit. J'ai envie de dire non, je m'inscris en faux là-dessus, parce que ça a été prouvé, les collectivités territoriales sont celles qui investissent, qui construisent notre pays, et au contraire, c'est elles qui relancent la machine économique. Donc, c'est encore une fois, c'est une question de choix politique. On veut asphyxier les collectivités territoriales, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage, parce que elles ont leur part, et on prend notre part. En tout cas, quand j'étais adjointe au maire, nous avons pris notre part.
Et d'ailleurs, les collectivités territoriales, les mairies, les municipalités n'ont pas le droit d'être en déficit, contrairement à l'État. Alors, je commence toujours par le début. Le début, c'est le berceau. Je vais par là souvent, partout. Avant même de concevoir l'enfant, on l'inscrit déjà à la crèche. Alors, rapidement, s'il vous plaît, quelle est la situation au niveau des crèches et des maternelles à Champigny, et qu'est-ce que vous proposez pour changer les choses, si les choses ne vont pas dans le bon sens?
Alors, concernant les crèches, Champigny, le Val-de-Marne est plutôt bien doté, et ça, c'est grâce à des politiques volontaristes de gauche.
Monsieur Favier, en droite.
Voilà,
Favier.
C'est ça. C'est important de le dire, hein, que au niveau du Val-de-Marne, c'est le mieux doté en termes de crèches. Oui, jusqu'à présent, bien sûr. Si vous voulez, par rapport à la question des crèches de la petite enfance, on a une droite qui est en train de transformer les projets pédagogiques des crèches qui deviendraient juste un mode de garde où on plaque les enfants et point barre. Je vais le dire un peu grossièrement comme ça, mais c'est des professionnels de la petite enfance hein, qui en témoignent, ça n'est pas moi. Et on a bien senti que c'est... nous, on a résisté, moi j'ai fait partie de beaucoup de batailles, non au bébé à la consigne. Donc c'est remettre de l'humain dans ces services. Où on décourage le personnel, c'est des personnels très souvent qui sont passionnés par les métiers de la petite enfance, qu'on vient à dégoûter parce qu'ils sont sous-payés, qui n'ont aucune reconnaissance au niveau du statut, etc., qui travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles puisqu'ils sont en sous-effectif, et c'est la porte ouverte en plus à un danger en direction des enfants.
Oui, mais ça dépend pas du maire, c'est pas le maire qui peut faire ça, parce que ça c'est l'éducation nationale.
Non, alors, ça dépend du maire. Bien évidemment, quand il s'agit de crèches municipales, bien évidemment que ça dépend du maire, parce que c'est lui qui peut jouer sur le RIFSEP, le régime indemnitaire, le régime indemnitaire, c'est lui qui peut jouer là-dessus pour donner un peu plus de reconnaissance à ce personnel. C'est lui qui peut instaurer une politique, qui est vraiment là pour l'enfant et qui est pas là juste pour faire du chiffre et juste garder les enfants. Je vais vous donner juste des exemples. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants à la crèche, et il y avait des projets musicaux, culturels, d'éveil. Et il ne faut pas que ça soit juste des modes de garde simples, sans contenu.
Alors, c'est pas la garde, mais tout le périscolaire, c'est très important, parce que bon, les enfants, après les cours, et là, je parle d'un problème, j'ai élargi la question, parce que de plus en plus, il y a des familles monoparentales. En réalité, c'est les mamans qui s'occupent de leurs enfants. Souvent, les mamans partent matin très tôt et reviennent le soir. Et après, on dit, oui, vous laissez vos enfants traîner dans la rue. Donc, le périscolaire, là, c'est très important. C'est-à-dire, après l'école, bon, que les enfants aillent un lieu où continuer à apprendre, à s'amuser, à faire des activités, et en même temps, bon, ils ne seront pas dans la rue.
Oui, et alors on en revient au contenu pédagogique et à ce que l'on va impulser. Moi, je vous ai parlé un peu de mon enfance à Champigny. C'est une enfance où on a eu accès à beaucoup d'activités. Et c'est que de mettre de l'égalité, de la justice sociale, que de mettre en, du contenu culturel, sportif, de l'éveil. Les enfants sont très curieux, sont très intelligents, et il faut les entre guillemets les stimuler et leur apporter de la connaissance. Le périscolaire, ça dépend de la mairie, encore une fois. Donc c'est quel recrutement du personnel qui va encadrer ce temps, c'est quel suivi, quel projet, encore une fois, autour des enfants qui va apporter. Enfin, ça passe par là, ça passe par la formation des personnes qui vont encadrer les enfants, en lien avec les parents d'élèves, en lien avec l'éducation nationale.
Et avec les lieux, il y a les centres culturels, il y a les médiathèques, etc. Il y a tout un truc. Alors ça, les services publics. On sait très bien que la CAF ferme leur permanence, la Sécurité sociale ferme leur permanence, le bureau de poste, en 94, alors là, c'était l'hémorragie, le nombre de bureaux de poste qu'on fermait. Qu'est-ce que vous proposez pour sauvegarder ces services publics?
Alors, il faut rencontrer tout simplement ces institutions, avoir un réel partenariat, mettre en place des conventions, et faire en sorte de les maintenir déjà maintenir, ne serait-ce que résister pour maintenir les services publics existants, c'est déjà une bataille, et tout simplement développer des partenariats en fonction des besoins de nos habitants.
Ça, c'est, on pourrait dire qu'au niveau de la santé, c'est pareil, d'avoir des maisons de santé, trouver un médecin traitant, souvent c'est pas facile, un spécialiste, n'en parlons pas, orthophoniste, etc. Bon, je pourrais faire la liste est immense. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à la santé? C'est-à-dire que ce service public de la santé soit aussi, que les habitants de Champigny puissent avoir accès facilement.
Au niveau de la santé, il faut savoir que Champigny, on est bien doté, encore une fois, par rapport à des politiques volontaristes. On a deux centres municipaux de santé. Ça a été un choix politique pour donner, encore une fois, l'accès à la santé à un maximum de personnes. Nous proposons de mettre en place une mutuelle communale, c'est-à-dire de négocier un contrat pour que ça soit, parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas de couverture médicale. Et l'idée, c'est de faciliter l'accès aux mutuelles. Je vois les personnes d'un certain âge, les petites retraites et la couverture de santé qui peut atteindre 100 euros, voire 150 euros. Donc, c'est pas des moindres. Si nous, en tant que collectivité, on peut négocier un contrat pour donner accès à un maximum de personnes d'être couverts.
Et en même temps, les transports gratuits, parce que le conseil départemental a supprimé la carte améthyste, entre autres, et vous proposez, mais rapidement, justement, les transports gratuits pour les jeunes, moins de 26 ans, je crois, pour les retraités.
Vous avez bien lu notre programme. Effectivement. Alors, le Navigo pour les moins de 26 ans, parce qu'il y a des aides qui existent, mais l'idée, c'est que la ville vienne compléter l'aide. Comme ça, il y a un reste à charge zéro. Et parler de gratuité, encore une fois, je tiens à le dire, parce que on entend souvent la droite qui nous dit « oui, l'assistanat, ça suffit, etc. » Non, c'est une question du droit à la mobilité pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Quand on parle d'autonomie, il faut pouvoir avoir cet accès au transport en commun. Et il y a la gratuité également pour les seniors en fonction des ressources.
En fonction des ressources, c'est très important. Alors, logement, bon, Champigny respecte que plus qu'il faut, entre guillemets, hein, bien entendu, la loi SRU. Vous dites, droit au logement, rénover au lieu de détruire.
Oui, rénover au lieu de détruire.
Bon, alors, il faut dire, pardon, les bars, bon, tout à l'heure vous avez parlé de Bois l'Abbé, il y a les Mordac, moi je pourrais faire tous les quartiers. Effectivement, bon, souvent il n'y a pas de commerce, hein, il faut se déplacer. Bon, les bus, les transports, c'est une autre affaire. Comment faire justement?
Rénover au lieu de détruire. Alors faut savoir que aujourd'hui, il y a les programmes de rénovation urbaine. Certains maires de droite s'en sont servis pour chasser leur population. Et on ressent bien cela dans le projet du maire actuel, Laurent Jeanne, très clairement. Comme à Meaux, par exemple. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de familles de Meaux qui ont vécu de manière très violente ces rénovations urbaines. La rénovation urbaine, elle doit servir dans l'intérêt des habitants. Les réhabilitations de logements et les démolitions à minima. et pas un maximum de démolition pour démolir. Mais, surtout que dans un contexte de crise du logement, où aujourd'hui on a 800 000 demandeurs de logement en Île-de-France, les gens ne comprennent pas qu'on détruise du logement. Non, ça n'est pas compris.
Mais il y a quand même des logements que apparemment ça coûte moins cher de détruire et rebâtir à nouveau, que les rénover, parce que c'est des bâtiments anciens, mine de rien.
Ça, je ne suis pas convaincue que le choix des démolitions soit faites par rapport à la vétusté. Il y a des démolitions prévues de logements qui sont encore en très bon état, qui sont des logements solides. J'ai envie de vous dire, les logements qui sont plus récents aujourd'hui, des fois, sont beaucoup moins résistants que ces bâtiments-là.
Alors, parlons encore d'investissement de la part de la maire, du maire, qui sera élu le 22, à la fin du deuxième tour. Je vais parler du commerce de proximité. Donc, ça, je veux dire, préemption des boutiques vives. Alors, on sait très bien que les commerces de bouche, ce que j'appelle commerce de bouche ou commerce de proximité, ils disparaissent les uns après les autres. On voit les fast-food, alors ça pousse comme des champignons. Comment faire? Parce que là, il faut avoir des sous aussi pour dire, bon, j'ai parlé des mandats que des Bois Labbé, le nombre de commerces, on peut faire des centaines de mètres, pas un seul commerce. Comment faire revivre ça, parce que ça, finalement, c'est le lien social, c'est la vie sociale, c'est la vie quotidienne des habitants, où ils peuvent se retrouver, discuter, parler.
Ouais, alors, effectivement, on ne veut pas de villes dortoir. On veut des villes où il fait bon vivre, des villes où on peut consommer, et j'encourage les Campinois à consommer Campinois. Personnellement, je m'efforce de faire ça, consommer Campinois.
On a une librairie. Vous devrez le. Ah non, oui, ça, c'est la librairie.
On a une librairie. J'encourage les gens à ne pas acheter sur Amazon, consommer.
J'incite même pas celle-là. Non, n'achetez pas. Un livre, s'il n'a pas le livre, votre libraire va le commander, vous allez l'avoir lu deux jours après.
Voilà, merci. Et alors, il faut soutenir nos commerces. Et soutenir nos commerces, ça veut dire ne pas prendre de décisions qui vont contre eux. Il y a des décisions qui ont été prises contre eux, sans eux. Donc, il faut prendre des décisions avec eux pour être sûr que ça va dans le bon sens et que ça ne va pas éteindre. Je pense à l'arrêté municipal qui diminue l'horaire d'ouverture des commerces, des restaurants, des boutiques. J'ai fait le tour de ces commerçants et, je vais vous le dire comme ça, ils tirent la langue.
Pourquoi le maire a décidé ça? C'est histoire de nuisance?
Je ne sais pas si c'est à cause de nuisances, mais je pense qu'il faut, si c'était à cause des nuisances, il faut cibler, pas prendre une décision qui n'a pas de sens en fonction des commerces. Alors, même les commerçants ne comprennent pas cette décision eux-mêmes. Donc, nous, en tant qu'élus de l'opposition, encore moins. Et il faut revitaliser le commerce. Il y a des choses qui sont possibles. Il y a beaucoup de rideaux qui sont fermés. Il faut faire des boutiques éphémères pour encourager les Campinois ou les non-Campinois à venir s'installer, faire des animations commerciales. En tant que mairie, on peut le faire, soutenir en faisant des animations commerciales pour inviter encore une fois les Campinois à consommer.
Oui, parce que bon, il y a un centre commercial à Ormesson, tout au moins, il faut grimper, il faut avoir une voiture. On arrive à la fin, Madame Gazamba. Parce que tout ça, finalement, filigrane, tout ce qu'on vient de dire, on a parlé des quartiers, la vie d'un quartier. La citoyenneté au milieu de votre programme et de la démocratie locale.
Alors la citoyenneté, c'est la base de la France insoumise. Quand on parle de la révolution citoyenne, et c'est au niveau de l'État, mais c'est aussi au niveau local, bien évidemment. Il y a le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que tous les projets vraiment structurants de la ville doivent être pris en lien avec les habitants. On vient pas à la fin leur demander la couleur du banc ou la couleur des murs. C'est un projet qui doit se construire avec les habitants. Ça, c'est la première chose. La France Insoumise, c'est le seul parti qui parle de révocation des élus. Ça veut dire que...
Vous revenez à 1871 dans la Commune de Paris.
Bon. Oui, mais...
Savez très bien que constitutionnellement, n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place à notre échelle. Il faut que ça soit possible. Et à notre échelle locale, effectivement, il faut le mettre en place et il faut le porter et il faut aller vers là. Il faut aller vers là pour qu'on n'ait pas l'impression... Quand on parle de défiance en la politique, il faut à un moment donné donner des outils aux citoyens pour qu'ils pensent vraiment qu'il y a un changement, qu'il y a un renouveau et pour donner vraiment le pouvoir aux habitants. Aux habitants, pardon, là je parle du local, mais aux électeurs, parce qu'ils nous ont élus. Et ils doivent pouvoir contrôler.
Donc, ça suppose, parce que vous êtes élu, de constituer de, je dis, des comités de quartier, appelons-le comme on veut, et justement que les habitants aillent leur mot à dire quand il y a des choses fondamentales qui sont décidées au niveau central.
Les habitants, et si vous me permettez, l'opposition aussi, le respect de l'opposition. C'est-à-dire que quand on est maire de toute la ville, pas que de ceux qui nous ont élus, c'est important de le dire. Donc de prendre en compte aussi la parole de l'opposition et de donner une place à l'opposition.
Alors, grand meeting fin de campagne, bon, le 2 mars.
Demain.
Le premier tour, c'est le 15. Bon, mais enfin, bref. Donc, ça sera à la Maison pour tous, Yuri Gagarin, 6 avenue du 11 novembre 1918, à Champigny-sur-Marne, bien entendu. Donc, là, c'est pour vous, cette rencontre est centrale.
Oui, elle est centrale puisque c'est la fin de campagne. C'est un temps fort de fin de campagne. On a Manuel Bompard, quand même, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et ça va être l'occasion de présenter notre liste et notre programme. Donc oui, c'est un temps fort de la campagne, dans cette dernière ligne droite, ligne gauche, si je peux me permettre.
Alors, il faut dire que pour ces élections, les citoyens européens peuvent voter, mais les autres étrangers, même s'ils sont là depuis 20 ans, 30 ans, n'ont toujours pas le droit de vote. Et merci M. Mitterrand, que je lui avais promis 1980, je me souviens bien. Bon, enfin, et d'autres ont proposé.
Merci M. Hollande aussi.
Hollande, et même M. Sarkozy, il avait parlé de ça aussi. Mais enfin, toujours est-il qu'il n'y a que les citoyens français et les citoyens européens qui pourront voter. Et à propos de vote, Mme Gassamba, une minute, une bonne raison pour voter. Votre liste se faire mieux pour Champigny, avec, bien entendu, Madame Sidi Keïta Gassama.
Une bonne raison, c'est que la plupart des Campinois me connaissent, la plupart des Campinois connaissent la combativité du parti, la France Insoumise. Nous avons une liste citoyenne, enfin insoumise et citoyenne, qui incarne toutes les générations, tous les quartiers de la ville et différentes catégories sociales de notre ville qui est vraiment à l'image. C'est une liste qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et tout simplement, le projet, encore une fois, c'est de redonner le pouvoir aux citoyens et de venir avec un renouveau. On vient pas juste gérer la mairie, on vient changer radicalement, je le dis, radicalement le quotidien des Campinois. On veut un Champigny où il fait mieux vivre.
Merci bien. Et bon, le grand meeting de fin de campagne, c'est demain. Demain, le 2 mars,
demain,
à partir
de
19h, n'est plus ni moins. Écoutez, merci bien. De toute façon, la campagne va continuer, justement, jusqu'au 13 le soir, puisque le 14 mars, c'est le jour de réflexion.
Tout
merci bien.
Tout à fait. Obligada à vous. Merci.
Et on va faire, petite respiration musicale. Quinta do Biola.
Difícil de encontrar o canudo, viva a esperança.
Et on revient au direct, je rappelle, le passage à niveau ce dimanche 1er mars. Et on continue à parler des municipales. Premier tour le 15, deuxième tour le 22. Et cette fois-ci, on va de l'autre côté de la voie ferrée, plus concrètement jusqu'à Villeneuve-le-Roi. Monsieur Didier González, bonjour et merci d'être revenu à Radio Alpha.
Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de cette belle radio qui est Radio Alpha.
Alors, vous connaissez déjà les locaux, parce que bon, vous êtes maire de Villeneuve,
Le Roi.
Depuis 2001.
Oui, depuis 2001. Depuis 2001, ça donne une certaine continuité. Et donc, voilà, moi je suis particulièrement heureux de pouvoir avancer, d'assurer le développement de cette ville, voilà. Et donc, je suis particulièrement content et j'ai vu aussi le développement de la communauté portugaise à Villeneuve-le-Roi, une communauté qui est très importante et qui a pris toute sa part dans le développement de la ville.
Alors, donc, ça, vous briguez un quatrième mandat. Il faut dire qu'en 2020, vous avez été élu dès le premier tour.
Oui. Ben, c'est un encouragement à continuer. Vous savez, quand vous êtes élu dès le premier tour, vous vous dites, bon, c'est bien qu'on puisse continuer le travail. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. On a de nombreux chantiers sur lesquels, j'imagine, vous allez revenir, en cours. Et donc, on se dit, continuons le travail.
Alors, par rapport au chantier, par rapport à vos positions, pour le moment, j'ai que le bilan de ce dernier mandat, qui finit là, au mois de mars, là, ce mois-ci.
C'est ça.
Mais il y a quelque chose, donc, mine de rien, en parlant autrement, 20 ans, 2001, 2026, ça fait 25 ans. Donc il y a une génération, finalement, qui sont nés avec vous comme maire, aujourd'hui ils ont 24, 25 ans. C'est vous qui avez, certaines manières, modelé un petit peu la vie quotidienne de ces jeunes.
En tous les cas, j'ai fait un accompagnement. Moi, j'ai pas la prétention de modeler, mais en tous les cas, j'ai accompagné. Oui, j'ai accompagné parce que, si vous voulez, il y a la vie familiale, il y a la vie professionnelle, avec toutes ces étapes, et il y a la vie de la ville. Et c'est vrai que quand on est maire, eh bien, on accompagne. Parce que on s'occupe des écoles, parce que on connaît les gens, parce que on va aussi les accompagner dans l'animation, dans certains moments de difficulté où les gens viennent vous voir. Donc, je vais pas dire qu'on est médecin, mais on connaît beaucoup de la population.
Voilà. Vous êtes le seul élu. Les maires sont les seuls élus qu'on croise dans la rue, dans la vie tous les jours.
C'est vrai.
Alors, je me souviens que la dernière fois que je suis allé à Villeneuve-le-Roi, c'était dans un local où l'association portugaise allait faire une fête. Et d'ailleurs, vous êtes venu, c'était extraordinaire parce qu'il y avait votre fille qui se mariait ce jour-là, ce samedi-là.
Bon, mais c'est vrai. Vous avez bonne mémoire.
Complètement. Oui, parce que plus que ça, c'est que bon, ils passent au-dessus de la radio ici, les avions, mais plus haut. Et on a été interrompu plusieurs fois, parce que les avions, ils passent, on dirait qu'ils rasent Villeneuve. Alors, à un moment donné, il y a eu des mouvements, surtout que les riverains soient respectés. Ça, ce combat-là, il continue.
Ah oui, il continue. Et ça, justement, c'est l'un des objectifs, l'une des raisons pour lesquelles je continue. Parce que ce combat doit être en permanence pris et repris. Vous savez qu'en ce moment, d'ailleurs, c'est un point d'actualité, hein, et j'en profite pour le dire sur votre radio, avec quelques... autres communes comme Villeneuve-Saint-Georges, comme Ablon, etc. Des villes qui sont survolées aussi. Hein. Eh bien, nous attaquons l'État. Hein, nous avons fait un recours devant le Conseil d'État pour pouvoir demander à ce que le couvre-feu qui normalement limite un peu les avions la nuit.
Entre 11h et 6h.
C'est ça. Entre 11h30 et 6h du matin. Et normalement, il n'y a pas d'avion. Eh bien, nous nous demandons à ce que ce couvre-feu soit légèrement rallongé de façon à ce qu'on puisse au moins avoir 7 heures de sommeil consécutif, pas 8 heures comme demande l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, mais déjà 7 heures, au moins 7 heures, quoi. Voilà, qu'on puisse avoir un progrès à ce jour, ce n'est pas acquis, et l'État... on s'est lancé dans un bras de fer avec l'État, et donc je le dis à vos auditeurs, puisque c'est pas plus tard qu'hier, je terminais de mettre la main avec les avocats sur le dernier mémoire qui attaque l'État en justice, parce que nous considérons que il en va de la santé des gens. Et ben, on parlait de la santé et de l'accompagnement des familles, ben voilà un bel exemple.
Mmh. Alors, monsieur le maire, monsieur le maire, candidat maire, un maire, à nouveau. Villeneuve-Saint-Georges, vous êtes à côté d'un nœud ferré, donc ici de la voie ferrée. Vous avez le fleuve qui passe pas très loin non plus. Au point de vue des transports, comment ça se passe? Est-ce que Villeneuve-le-Roi est enclavé, est pas enclavé? Parce que bon, vous savez très bien que beaucoup de gens vivent, dorment, ont leur maison à Villeneuve, ils travaillent à Paris, ils travaillent dans d'autres banlieues.
C'est ça.
Comment ça se passe?
Mais c'est vrai, quand on vit en banlieue, on est assez tributaire des transports. Ça, c'est une réalité. Alors, nous avons quand même la chance d'avoir la ligne C du RER. Bon, cette ville s'est développée à partir de la ligne C du RER. Et on a la chance d'avoir entre la station de Villeneuve-le-Roi et la station d'Orly, qui se trouve sur, un peu sur le haut, hein, puisqu'il y a il y a une fourche, hein, voilà, exactement. Eh bien, on a la chance d'avoir une assez bonne desserte, au moins sur le papier. Bon, maintenant, je vais pas dire du mal de la SNCF, mais bon, en ce moment, on sait toutes les difficultés que rencontre la SNCF pour arriver à faire arriver les trains à l'heure, ce qui est l'un des problèmes, d'ailleurs, sur lesquels nous nous retrouvons avec le maire d'Ablon, avec le maire d'Athis-Mons, donc on voit bien qu'on dépasse les clivages politiques. Et c'est vrai que c'est un combat que d'arriver à faire que les engagements pris par la SNCF soient respectés. Et à partir de là, eh bien, on arrive en gros à avoir une assez bonne qualité de desserte. À cela, nous rajoutons une ligne de bus qu'on a mis en place et qui va rejoindre la ligne 14.
Que vous avez mis en place?
Tout à fait. Qu'on a mis en place, là, et qui va rejoindre la ligne 14. Et donc, ça, c'est un plus pour les habitants de la ville. Après, il est difficile de faire passer toutes les lignes dans toutes les villes. Ouais. C'est un combat un peu compliqué.
Mais M. González, créer cette ligne, ça c'est pas une dépense, c'est un investissement, là.
Oui, mais d'ailleurs, c'est la région Île-de-France, hein, Île-de-France Mobilité qui a la main sur le développement des transports, hein, c'est pas les maires, mais c'est un enjeu pour tout le monde.
Bon, donc c'est pas un bus RATP.
Eh non.
C'est un bus de Transved, Keolis.
Keolis, exactement. Keolis, voilà. Mais bon. Vous connaissez bien.
Ah ben, parfaitement, parce que ça, c'est un gros problème. Justement, c'est la privatisation, petit à petit, des transports en commun dans la région parisienne. Alors, parlons d'autres secteurs très importants. C'est le secteur de l'éducation. Quand je parle d'éducation, ça commence par les crèches, les maternelles. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis 2001 là-dessus? Parce que c'est très bien qu'il y ait un manque des crèches publiques énorme, concrètement, évidemment.
Ah, mais complètement. Quand je suis arrivé comme jeune papa, il n'y avait zéro crèche municipale. Et donc, j'en ai fait cinq crèches, hein, quatre dimensions standard de 60 berceaux et une crèche plus petite, là, avec ce qu'on appelle un relais d'assistante maternelle. Puisqu'il faut savoir que les parents qui n'ont pas la chance, même en faisant quatre crèches sur la ville, hein, qui fait que la ville, maintenant, est bien dotée, hein, en crèches. Mais il n'empêche que c'est jamais assez. C'est jamais assez, donc qu'est-ce qui se passe?
C'est bon,
il y a des gens... ça veut dire qu'on fait des enfants. On aime les enfants ici à Villeneuve-le-Roi.
Il faut
et
armer
on en fait.
La France, comme
et
disait...
Et vous avez raison. Vous avez raison. Et, la, et donc, il y a, j'ai créé là, lors du dernier mandat, un relais petite enfance. Le relais petite enfance, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un outil qui est complémentaire aux crèches, puisque vous savez que quand vous n'avez pas de place, ou que vous faites le choix de ne pas envoyer votre enfant en crèche, mais de d'avoir une assistante maternelle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dames d'origine portugaise qui
sont nounous, je les appelle
qui sont nounous, d'adorables nounous. Voilà. Et donc ces dames, du coup, ont la possibilité de se regrouper, hein, au sein d'un bâtiment. Hein, qu'on appelle le relais petite enfance. Et du coup, il y a là aussi une directrice de crèche. Elle y rencontre les médecins, etc. Et c'est un autre type de garde. Donc, si vous voulez, je pense que nous avons la chance d'avoir et des crèches et des assistantes maternelles, et les deux se conjuguent. Voilà.
Ça concerne les maternelles. Bon, parce que le primaire, le maire a la responsabilité des locaux.
Voilà.
Tout le reste l'échappe.
Tout à fait.
Quand la photocopieuse tombe en panne, c'est à la mairie qu'on va taper. Toquer à la porte, comme on dit. Mais au niveau des investissements, monsieur le maire, depuis pas mal d'années, les dotations de l'État se réduisent, l'année après l'année. Le gouvernement a fait des coupures en ce qui concerne le budget des collectivités territoriales. Vous êtes accusé de creuser le déficit national. Comment vous pouvez faire, prévoir de faire un budget, faire des investissements en sachant que, au point de vue finance, ça se réduit et c'est fini la taxe d'habitation, entre autres choses.
Mais vous avez raison. Et ça, c'est un vrai problème. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup se projeter et essayer de devenir, de deviner comment va se faire l'avenir pour essayer d'avoir des coups d'avance. Et il faut aussi aller chercher systématiquement des subventions là où il en reste. Parce que vous avez raison, Arthur, parce que on a de moins en moins d'aide de l'État. Ça, c'est un constat évident. Et donc, il faut aller chercher tous ceux qui peuvent contribuer à la production de bâtiments éducatifs. Et donc, là, vous avez quoi ? Vous avez qui ? Vous avez la métropole du Grand Paris. C'est une des possibilités.
C'est nos impôts.
Et oui, mais autant qu'ils reviennent directement
à la source.
Ouais. Vous avez la région qui, à travers ses contrats régionaux, vient aider aussi. Et vous avez des contributeurs auxquels on ne pense pas forcément. C'est-à-dire que lorsque vous avez un promoteur, par exemple, qui va dire, tiens, ben voilà, je voudrais faire tant de logements, une petite unité, allez, 20 ou 30 logements à tel endroit. Eh bien, parmi les conditions que vous posez, eh ben, c'est de dire, eh ben, écoutez, oui, d'accord, mais vous donnez une certaine somme pour pouvoir faire une partie de l'école, une partie ci, voilà. Et c'est en agissant en prévision comme ça que vous arrivez à sauver les meubles, alors même que, comme vous l'avez dit, on n'a plus de taxe d'habitation et on nous prend de l'argent.
Alors, monsieur Didier Gonzalez, vous avez parlé de logement. Alors, ces promoteurs immobiliers, quand ils construisent, est-ce que, il y a des logements, ce qu'on appelle intermédiaires, des logements loués modérés. Est-ce qu'il y a une politique de la mairie pour dire, bon, on sait très bien qu'il y a des couples qui travaillent tous les deux, ils gagnent pas assez pour pouvoir louer quoi que ce soit. Comment ça se passe à Villeneuve-le-Roi ?
Alors à Villeneuve-le-Roi, nous avons un peu plus de 20%, soit peut-être 23%, 24%.
Donc vous arrivez au 25%.
On y est pratiquement, mais si vous voulez, la grosse difficulté que nous avons, c'est encore les avions. Parce qu'à partir du moment où vous avez des avions, vous ne pouvez pas construire.
On est limité par la hauteur
et on est limité par des contraintes d'urbanisme qui fait que quand vous êtes proche d'un aéroport, vous ne pouvez pas ramener davantage de population sous les avions. Bon. Parce qu'on dit, oui, mais si ça fait des nuisances, vous pouvez pas exposer davantage de gens. Donc, on limite les possibilités de construction. Donc, c'est un cercle vicieux. Mais, de manière générale, vous savez, moi, je reste persuadé que c'est l'une des grandes réformes qu'on doit faire. Et d'ailleurs, la communauté portugaise a déjà pris complètement sa part là-dedans. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est de répondre aux rêves de tout foyer. Tout foyer, c'est quoi ? C'est devenir propriétaire de son logement pour pouvoir donner un petit quelque chose demain à ses enfants, etc. Et donc, plutôt que les couples qui rencontrent des difficultés, comme vous le dites, et souvent quand on démarre dans la vie, on n'est pas très riche. Bon, après ça peut s'améliorer, mais au début c'est un peu dur. Bon, eh bien que ces couples qui démarrent dans la vie, on leur mette le pied à l'étrier, mais pas pour devenir locataire, pour devenir propriétaire. Qu'on garantisse des prêts à taux zéro, et qu'on mette le pied à l'étrier, parce que franchement, c'est le plus beau rêve qui se concrétise pour tous les foyers. Et regardez votre communauté et la communauté portugaise, à quel point elle réagit fortement sur cette thématique-là. Ils font de leur vie le rêve suivant, c'est de pouvoir acheter un petit pavillon de rien du tout à retaper, et ils en font une belle petite maisonnette où ils peuvent épanouir leur foyer.
Donc c'est rénover les logements, et on sait très bien qu'il y a des villes qui ont besoin. Alors parlons justement des villes, je veux parler du centre-ville, le cœur de la ville. Et quelque chose de très important, c'est le commerce dit de proximité. Moi, je parle toujours des métiers de bouche, hein. Un charcutier, un poissonnier, un libraire. Bon, c'est pas de bouche, mais ça nourrit aussi la culture. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous défendez que ce centre-ville reste vivant, un lieu social. Et le petit commerce, parce qu'autour, vous êtes encerclé par des centres commerciaux.
Alors, vous avez raison de poser cette question. Elle est vraiment très intéressante et au cœur du problème de développement des villes. Parce que une ville sans activité commerçante dans son centre, en centre-ville,
c'est une ville morte.
Voilà. Or, ça, on ne le veut pas. Or, toutes les villes sont concernées par cette problématique-là. Toutes. Bon. Donc, comment faire pour essayer de lutter contre ça et dynamiser le commerce? Si on laisse faire les choses, les gens, ils vont faire. Et tout le monde veut un commerce dynamique, mais vous retrouvez tout le monde le samedi à Belle Épine. Bon, donc résultat des courses, ça pose un problème.
Oui,
c'est vrai que les prix sont pas les mêmes, c'est vrai que si, que ça, 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 mais au bout du compte, c'est une réalité. Tout le monde veut du commerce, mais personne n'y va. Bon, donc il faut qu'on se débrouille, nous les municipalités, à trouver les moyens de dynamiser notre commerce. Alors comment le faire? Eh bien, nous avons mis en place le droit de préemption commercial. Ça consiste en quoi? Au moment où vous avez un commerce qui va muter, plutôt que de le vendre à n'importe qui pour faire un énième kebab ou je ne sais quoi, hein, ou une banque ou dont personne ne veut, qui ne crée pas d'activité à la place d'un restaurant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? La mairie fait préemption, c'est-à-dire qu'elle va acquérir le fonds. Et ce fonds de commerce, qui est devenue propriété de la commune, elle va le louer à des prix avantageux à des gens dont elle va chercher l'implantation. C'est-à-dire qu'on a diagnostiqué, je prends un exemple très concret, qu'il n'y avait pas de poissonnerie. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un fonds de commerce, on est allé chercher un poissonnier, on l'a mis dedans, on lui a fait un petit prix, c'était une nouvelle installation, on lui a mis le pied à l'étrier, et ben maintenant ça marche très bien. On a fait la même chose avec un café, Alba Café par exemple, mais de la même manière on a fait la même chose pour un magasin de vins spiritueux. Ça manquait
un caviste,
exactement. Et ben ça manquait pour acheter le vino verde. Bon, eh bien,
ça y est, vous revenez.
On y est. Ben, c'est presque l'heure de l'apéro, là. On est bien avancé. Bon, eh bien, la réalité, c'est que on s'aperçoit que si on n'est pas actif là-dedans, si on ne met pas en place les moyens pour développer, eh bien, on n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle, ben, on active tous ces leviers, hein, y compris avec la métropole du Grand Paris. Voilà.
Alors, une dernière question, à savoir avec les élections. Les citoyens européens peuvent voter aux élections municipales depuis 2001. Pour ça, il faut s'inscrire sur les listes électorales complémentaires. Bon, et d'ailleurs, j'ai encore un formulaire, là, quelque part. Mais enfin, bon, de toute façon, c'est passé la date de l'inscription.
Oui.
C'était au début du mois de
février. Avant le 6 février, bon, il fallait. Voilà.
Donc, je pense, voter, c'est un droit. Mais c'est avant tout un devoir.
Eh oui.
C'est pour ça, Monsieur Didier González, pour le 15 mars, vous dites, dans votre affiche, un seul tour. Notre seule partie, c'est Villeneuve. Alors, une minute, une bonne raison pour voter Didier González le 15 mars.
Oh bah c'est simple, c'est-à-dire que j'ai un peu d'expérience, j'ai montré que la ville, on l'a développée, et ben simplement tous les chantiers qu'on a mis en route, le marché, la gare, et puis tous dans tous les domaines, et bien qu'on puisse continuer ce travail, parce que on sait très bien que toutes les gestions ne sont pas identiques. Il n'est qu'à regarder toutes les villes n'ont pas le même développement, et donc que les gens ouvrent les yeux et comparent. Voilà. Je pense que on a là de bonnes raisons de continuer le renouveau de Villeneuve-le-Roi et faire que globalement on puisse vivre dans de bonnes qualités. Voilà.
Merci, monsieur Didier González.
Ben, merci pour votre invitation, et puis je salue toute la communauté portugaise.
C'est fait. Et nous, on arrive à la fin de l'émission, je rappelle, ce dimanche 1er mars, émission avec rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Merci également Manin Rochand, qu'aujourd'hui il a eu du boulot, hein, il faut pas dire le contraire. Il dit que oui, il fait de la tête, il est de l'autre côté de la vitre. Merci, et j'espère, je vous dis à dimanche prochain, c'est le 8 mars. Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est dommage que cette journée ne soit pas 360 jours par an, mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Vom embora.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar...
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.